Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parole aux orthophonistes, et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Oui, bien sûr. Alors, je suis orthophoniste aussi. Je travaille en libéral, en Savoie, plutôt en campagne, avec trois super collègues. J'ai toujours travaillé en libéral et à côté de cette activité, j'ai aussi développé un blog au départ qui s'appelle Paxa Affaires, pour ceux qui connaîtraient. Et à partir de là, c'est devenu aussi un organisme de formation. Donc je propose des choses pour la productivité des orthophonistes, essayer d'améliorer tout ce côté bureautique qui parfois nous pèse beaucoup et voilà.
Super. Eh bien, on en parlera longuement parce que c'est vrai que moi, je t'ai contactée déjà en premier lieu parce que je suis fan de ton travail.
Ah, merci.
Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir te poser des questions là-dessus. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu. Déjà, toi, comment tu t'es intéressée à l'orthophonie? Comment tu es rentrée dans les études?
Alors, je crois que je m'y étais intéressée. Je me souviens m'y être intéressée en terminale déjà.
Oui.
Mais ça a pas, j'ai pas eu le concours tout de suite. Donc, je suis partie en études d'anglais. J'ai une licence de civilisation étrangère, voilà, en anglais. Mais je regrette pas, c'était très intéressant et j'ai rencontré mon mari comme ça.
Ah, en plus quand même.
Donc je suis revenue après sur l'idée de l'orthophonie après avoir eu ma licence LCE, voilà. Et je sais plus ce qui m'a, qu'est-ce qui m'avait. Je ne sais plus pourquoi j'étais partie sur. J'étais partie en langue. Ouais, mais ça tournait quand même autour des langues, tu vois. Je suis restée sur ce côté langagier, linguistique. C'est ça qui me plaisait.
Ouais, il y avait un lien quand même.
Ouais.
Et alors, quand tu as commencé les études et quand tu as commencé à travailler, qu'est-ce qui te plaisait dans le métier ?
Eh ben bizarrement, moi j'aime bien tout ce côté entreprise, faire l'administratif, tout ça. Moi ça m'a jamais dérangé. Je pense que si j'avais pas réussi à être ortho, j'aurais fini par être assistante de direction ou un truc comme ça où il faut organiser. Oui, ouais. donc moi c'est pas ce côté-là qui me rebutait, bien sûr après le côté contact avec les patients, la relation d'aide, c'était ça qui me plaisait dans le métier.
Ouais, et il n'y avait pas de différence entre ce que tu avais repéré dans les études et le métier, c'était plutôt en adéquation la vision que tu en avais?
Je pense pas tout à fait. Moi, je pense que j'avais la vision qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui et le côté scolaire et soutien scolaire. C'était l'image que j'avais avant de commencer. Mais je me suis ouverte après à tous les autres champs de l'orthophonie et on découvre un peu le côté vaste de notre domaine.
Génial. Et qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus maintenant que ça fait quelques années que tu travailles? Est-ce qu'il y a vraiment, donc à part peut-être le côté administratif, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier?
Je repère que j'aime beaucoup les troubles des apprentissages, la cognition mathématique, le langage écrit. Je me suis toujours beaucoup beaucoup formée là-dedans et j'ai même parfois un peu de mal à m'ouvrir à d'autres domaines. Et puis c'est tellement notre pain quotidien en orthophonie que c'est facile de rester dans le côté troubles des apprentissages et le langage oral. Voilà. Beaucoup d'ados aussi. J'aime bien travailler avec les plus grands.
Ok, super. Bah, c'est chouette de savoir ce qui, toi, te plaît. Et du coup, forcément, quand tu prends des formations ou qu'on se renseigne, quand c'est un sujet qui intéresse, c'est tout de suite beaucoup plus facile.
Ouais.
Parfait. Est-ce que tu as toujours travaillé en libéral ou est-ce que tu as eu plusieurs types d'exercices?
Non, j'ai toujours travaillé en libéral et vraiment, j'ai même des souvenirs, enfin, c'est affreux, mais mes souvenirs de stages en école d'ortho, les stages en salariat, oh,
Oui.
mais ça m'a dégoûté du
Ah
salariat.
oui,
Mais bon,
d'accord.
à ce point-là, ouais, vraiment,
Oui.
je pense que j'ai manqué d'expérience et de maître de stage inspirant dans ce domaine-là. C'est pour ça, je pense que je ne me voyais pas faire autre chose que du libéral.
Ouais, et même aujourd'hui, de faire que du libéral, toi, c'est ce qui te convient.
Ouais, complètement. Et puis après, avec ma double casquette où je travaille aussi à côté sur mes petits projets, ouais, ça me va bien.
Super. Et donc justement, on va arriver à parler de Paxa à faire. Est-ce qu'on dit encore Paxa à faire ou juste Paxa?
Ben, je sais pas comment c'est devenu Paxa. Je crois que ça, je sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai toujours dit Paxa à faire.
Ah,
Je sais pas pourquoi
d'accord.
il y en a qui disent Paxa.
C'est un peu
Mais
devenu comme ton nom de famille, Claire
ouais,
Paxa.
c'est ça. Mais je sais d'où ça vient. Je pense que c'était Géraldine du groupe de téléorthophonie à l'époque où elle m'avait. Ah si, bah tu vois, j'ai fait une interview déjà avant avec Géraldine Robage-Vicaire. Et à l'époque, elle me présentait comme ça, Claire de Paxa. Donc je pense que
C'est
c'était
peut-être pour ça alors.
ça.
Et donc, comment ça a commencé en fait? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience, peut-être dans ta vie professionnelle, personnelle, qui t'a fait dire, ah bah tiens, je vais commencer à faire Paxa à faire.
Alors, ça date de 2017. Donc,
Oui.
ma fille, ma deuxième fille, donc j'ai deux enfants. Le premier en 2013 m'a déjà bien mis. C'était compliqué. Et honnêtement, je l'ai commencé parce que justement, moi-même, je n'étais pas organisée. Et quand j'ai commencé à découvrir plein d'astuces d'organisation, je me suis dit, mais il faut partager ça. Et à la naissance de ma fille en 2015, là, j'ai complètement. Le deuxième enfant ça m'a noyée. Et
Oui.
j'ai eu envie de partager les choses que j'avais découvertes pour justement tout ce que j'avais découvert pour gagner en efficacité et être plus productive au bureau. Bon, après, le côté informatique m'avait aussi toujours beaucoup plu, hein. Je pense qu'à l'époque, je suis diplômée de 2008 et à l'époque, je devais être la seule dans l'amphi avec mon ordi, hein. Aujourd'hui, je pense
Ah,
que c'est plus
d'accord.
du tout le cas. Mais moi, je me rappelle être dans l'amphi avec mon gros machin qui devait peser 5 kilos à l'époque, là. Et je devais être la seule. Enfin, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Mais enfin voilà, j'étais la seule avec mon gros ordi, je tapais les cours, j'étais celle qui mettait les cours la sauce, sur le site de la sauce, enfin voilà, ce
D'accord.
genre de truc. Donc ça a toujours été mon truc quand même, le côté informatique.
Ouais,
Donc
un petit côté geek.
ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Et donc, tu
Et je me
disais
suis
par rapport.
rendue. Oui.
Pardon, je t'interromps. Tu disais par rapport au fait que justement, tu étais noyée à la naissance de ton deuxième enfant. Est-ce que c'était plutôt sur le côté perso, pro, ou est-ce que c'était un peu les deux, justement? Tu
Oui,
avais déjà repris le travail?
c'était les deux. Je pense que
Ouais,
c'était
d'accord.
surtout le perso, mais il y a toute une nouvelle organisation à trouver. Enfin, les mamans se retrouveront complètement, mais c'est et puis encore une nouvelle organisation quand le deuxième arrive. Alors déjà quand on devient maman et encore plus quand il y a le deuxième. Moi, j'ai eu l'impression que c'était pas du tout le. C'était encore plus difficile de passer de 1 à 2 que de passer de 0 à 1 enfant.
Oui.
Voilà, je sais pas si les mamans partageraient ça, mais moi c'était ça. Et c'était plutôt, ouais, c'était global, hein. Besoin de m'y retrouver, une charge mentale énorme, avoir besoin d'endroits où poser cette charge mentale et trouver des solutions pour aller plus vite, pour arriver à déléguer. Et voilà, j'en suis arrivée à plein d'astuces qui sont basées beaucoup sur le numérique quand même, hein, sur le
Oui.
côté informatique.
Est-ce que tu te souviens des toutes premières astuces que tu as mises en place?
Alors, je dirais que, de toute façon, ouais, j'écoutais beaucoup les podcasts américains sur sur la productivité, tout ça. Je pense que c'était déjà juste, tu vois, arriver à mettre son téléphone en mode avion, des trucs comme ça. L'un des premiers outils que j'ai vraiment mis en place, c'était aussi un compléteur automatique de texte. C'est un truc tout bête, mais j'ai rentré plein de raccourcis. Ça a été une révélation pour moi, ce petit outil-là. C'était dans les premiers que j'ai partagé. Il s'appelle Texter. Je pense que vous pouvez retrouver l'article.
Génial.
Encore. Et c'était ça, voilà, je rentrais des raccourcis et paf, ça me mettait des gros paragraphes de texte à la place. Voilà,
Ah,
j'avais
c'est
trouvé
super.
ça super.
Et quand même, ces techniques, ça demande un investissement en termes de temps aussi, parce que du coup, par exemple, là, pour Texter, du coup, il faut prendre le temps avant de mettre tous ces raccourcis, avoir des plages de texte, mais en fait, ça en fait gagner beaucoup après. Est-ce que
Oui.
toi, t'avais, enfin, tout de suite, pour toi, ça t'a semblé naturel de prendre ce temps pour en gagner plus tard, ou est-ce que c'était un petit peu difficile de se dire, oh là là, je vais passer une heure à faire ça?
Me fait sourire parce que je me dis qu'il y a quand même, j'ai quand même perdu beaucoup de temps à essayer de découvrir des outils qui finalement n'ont pas servi. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et je fais partie de celles qui ont dû changer beaucoup d'outils. Enfin, je vois même pour l'agenda en ligne, j'ai passé énormément de temps sur un logiciel qu'après j'ai complètement lâché pour me
Ouais.
remettre après dans un autre. Mais au final, oui, mais c'est pas grave, c'était mon rôle. Je considère que c'était mon rôle de tester et après de partager sur les trucs qui marchaient vraiment bien et puis les trucs qui marchaient moins bien. Donc, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience.
Est-ce que c'est pas agréable aussi de redécouvrir un nouvel outil? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est numérique, c'est des choses qui t'intéressent aussi. Donc de découvrir, de farfouiller, etc.
Oui, complètement, il y a ça aussi. Hein. C'est moi, ça m'intéresse, je suis attirée par ça, c'est sûr. Hein. Là, je
Ouais.
vois le nouveau joujou, le geek, l'application
ChatGPT?
ChatGPT, GPT, voilà, c'est ça. Ça, je trouve ça extraordinaire aussi. Je me dis, oh là, mais
Ouais.
bon sang, il faut que j'en fasse un truc, ou qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc voilà, on sent, ça me rend un peu effervescente, ces trucs-là.
J'adore. J'ai hâte de voir ce que tu publieras justement sur ChatGPT, pardon. Et donc voilà, tu disais que tu mettais en place plein de petites astuces et que tu t'es dit, mais il faudrait les partager. Comment ça s'est passé du coup? Comment t'es passé de il faudrait les partager à je les partage?
Eh bien, en fait, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait beaucoup d'orthos qui étaient pas du tout. Enfin, moi, ça me paraissait tellement logique, ces astuces, c'est la manipulation de l'ordi, avoir un PDF sur lequel tu peux écrire facilement. Enfin, ça me paraissait tellement naturel. Et je me suis rendu compte au fil de mes remplacements, de mes collaborations et des personnes que je côtoyais que c'était pas du tout inné chez tout le monde, en fait, ce côté. Et même chez les jeunes, j'étais surprise de voir
Ouais.
que j'ai eu pas mal de collègues plus jeunes que moi qui sont pas du tout qui sont pas du tout versés sur le côté informatique et quand je leur montrais des trucs elles étaient ah bon ah mais oui on peut écrire directement sur un PDF ah mais c'est super pratique c'est trop bien ce truc j'ai dit mais il y a un truc à faire là quand même il faut partager tout ça alors ça a commencé par un blog parce qu'à l'époque c'était un peu à la mode les gens lisaient encore les blogs
Ouais.
aujourd'hui je publie moins parce que je me rends compte que ces articles-là sont peut-être on lit moins des longs articles de blog, donc voilà. Mais après, c'était facile, c'était une manière pour moi de bien détailler certaines étapes et que chacun puisse prendre le temps d'aller chercher une démonstration, un truc pas à pas à suivre. Voilà, c'était
Ouais.
un peu sous forme de tuto écrit, quoi.
Génial. Mais c'est vrai que maintenant, bah, il y a tellement de partage et d'accès à plein de choses aussi que les gens vont plus directement. Mais moi, la première, avant, j'adorais écumer tous les blogs. Et c'est vrai que bah, on prend moins le temps d'aller voir un blog pour une personne et on va plutôt voir les réseaux sociaux où en fait on aura plein de personnes d'un coup et c'est plus fluide. Et c'est vrai que ça se fait un petit peu moins maintenant les blogs. Ouais.
Oui, moi je regrette un peu ce côté. J'aimais bien, j'adorais. Et c'est vrai que ben, on
Ouais.
sent que la génération. Moi, je suis là, voilà, j'ai 40 ans et je suis de la génération des groupes Facebook. Et j'ai trouvé
Ouais.
ça super, quoi. Cet esprit de partage qu'il y a eu, par exemple, sur le groupe Téléorthophonie, mais c'était tellement génial. Tous les supports qui ont été partagés à ce moment-là, j'ai trouvé ça. Enfin voilà, tout le monde mettait sa petite contribution
Ouais.
et on était super contents de trouver plein de choses. Alors qu'aujourd'hui, à Insta, on a un côté un peu plus individuel, un peu plus individualiste. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ait plus ce côté où on met toutes nos contributions ensemble, tout au même endroit. Et voilà, c'est un peu le petit regret que j'ai quand même.
Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est plutôt des personnes différentes? Moi, c'est l'impression que ça me donne que les personnes qui partageaient des choses sur Facebook continuent à le faire et des gens qui peut-être se reconnaissaient pas ou partageaient pas sur Facebook vont le faire sur Insta. J'ai l'impression que ça devient deux choses différentes. Pas comme si les gens
Peut-être.
qui étaient sur Facebook sont partis, je sais pas.
Ouais, je ne sais pas, parce qu'après, il y a quand même eu ce mouvement où justement des grands groupes généralistes où tout le monde partageait, chacun a commencé à faire son petit groupe à soi quand même, son petit, ou alors à faire sa page Insta. Il y a eu les deux, il y a eu les deux. Puis aussi la nouvelle génération qui est uniquement sur Insta aussi maintenant, ouais, c'est vrai, c'est
Ouais.
vrai.
Et sûrement
C'est
bientôt sur
compliqué à
TikTok.
suivre, hein, parce que je dois suivre tout ce monde-là. C'est pas l'Insta, c'est très très dur à suivre.
C'est pas évident, effectivement, parce que là aussi, on se retrouve avec plein, 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 plein de publications. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Moi, je sais que j'ai un compte professionnel séparé parce que je me dis, sinon, je passe ma journée à regarder ça, à avoir des notifications. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Et donc, du coup, ouais, tu as commencé à faire un blog au début. Comment justement tu l'as diffusé? Comment est-ce que tu en as parlé pour que des gens consultent?
Ah. Eh ben, alors je ne sais, ben franchement, je saurais plus. Je pense que j'ai dû partager les publications après sur des groupes ortho un peu plus. Ça devait être ça, sur les groupes Facebook ortho, où je partageais les articles comme ça en publication. Et ouais, si, ça devait être ça, hein. Et puis comme il y avait une newsletter accrochée au blog, bah, attachée au blog, les gens pouvaient s'inscrire et recevaient les articles. Et puis voilà, ça a été repartagé comme ça. Ouais, je pense que ça s'est passé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, le confinement est arrivé. Et c'est là où bah, il y a eu ce côté formation en ligne qui a démarré. Et je me suis dit, bah, je vais regrouper tout plein d'astuces, tout plein de trucs utiles autour de l'utilisation de l'ordinateur dans notre quotidien en libéral. Et la formation, ma première formation est sortie comme ça. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire comment elle s'appelait, ta première formation?
La première formation donc de 2020, hein, je crois, oui, fin 2020, c'était Réveiller l'assistant personnel qui sommeille dans votre ordi.
Génial.
Voilà. Et donc, il y avait tout un côté administratif sur bah, manier les PDF, où trouver tout ce que je partage aussi sur les groupes de partage ortho. Voilà. L'administratif, comment gagner du temps, bah, avec les logiciels, comme je disais tout à l'heure, Texter ou avec les agendas. Voilà. Puis il y avait tout un côté rééducatif aussi, avec plein de petits logiciels, des petits outils qui peuvent nous servir en séance avec les patients. Voilà. Bon,
Génial.
aujourd'hui, je pense qu'elle date un petit peu, hein, ça va vite l'informatique, et malheureusement, je pense qu'elle commence un petit peu à dater, celle-là.
Mais c'est vrai que c'était une chance quand même, parce que toi, c'était des choses que tu partageais, que tu savais comment utiliser, comment ça fonctionnait. Et là, du coup, bah, quand il y a eu le confinement avec de la téléorthophonie, on n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers l'informatique. Et du coup, ça tombait super bien parce que toi, tu as pu
Exactement.
vraiment partager à ce moment-là des choses que tu maîtrisais déjà.
C'est ça. Ouais, je me suis. J'ai. Au début, j'étais pas trop sûre parce que je me suis dit, oh, mais en fait, les gens, ils pourraient tout trouver sur le blog s'ils prenaient le temps d'aller le chercher. Mais en fait, le côté condensé, tout mis en image, où les gens se posent devant une formation, bah, ça vraiment. C'est ça que les gens recherchent, en fait, d'avoir tout un condensé, quelque chose de simple, d'accessible, de structuré. Et voilà, ça, c'est pour ça que ça a fonctionné, je pense.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, toi qui parles de faire gagner du temps, là, tu leur faisais gagner du temps aussi parce
C'était
que tu
ça,
as déjà
c'était
tout
ça.
pris en main. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je m'étais fait la même réflexion quand j'avais sorti le e-book, justement, Les 100 infos ortho. Et je m'étais dit, mais en fait, moi, j'ai rien inventé. Parce que tu vois, c'est que des choses où je suis allée chercher dans la littérature, des sources, des données mises à jour. Mais en fait, c'est vrai que de chercher individuellement, ça prend tellement de temps que d'avoir tout au même endroit, bah, c'est plus simple. Mais je m'étais
Ah
fait la
ouais,
même
c'est ça.
réflexion que toi. Au début, je m'étais dit, bah, enfin, en soi, les gens peuvent les trouver, les informations. Mais ouais, il faut pouvoir le faire et avoir le temps de le faire. Ça prend beaucoup de temps.
C'est ça.
Et alors, est-ce que ta première formation a trouvé son public tout de suite? Est-ce que ça a mis du temps?
Non, ça a été. J'ai l'impression que justement, ça a bien fonctionné et ça continue. Ça a continué après un long moment. Non, non, c'était. Puis non, ça a bien fonctionné. Oui. Puis c'était vraiment le tout début, je pense, des formations e-learning. Donc les orthos, on était très friandes. Il y avait peut-être pas tellement d'offres. Et j'étais sur un domaine qui est pas beaucoup exploité. Voilà quoi, l'organisation, le côté. C'est un à côté, je pense, pour lequel les orthos seraient pas partis une journée entière en formation, fermer le cabinet. Je pense que c'était un format qui convenait bien à ce que je proposais et ça a plu ce côté-là. Ouais.
Ah, c'est génial, c'est vraiment une super idée. Je trouve que c'était hyper adapté à la conjoncture et ça répondait vraiment à des demandes, donc c'est top. Comment tu as continué tes partages? Quel projet tu as monté ensuite?
Alors ensuite, j'ai beaucoup développé un deuxième truc en parallèle, c'est ce que je trouvais très dommage, donc justement avec l'essor du groupe téléorthophonie, de tous ces groupes de partage, je trouvais dommage parce que Facebook, c'est une super plateforme pour partager, mais alors pour retrouver des trucs, c'était l'horreur, quoi. Donc j'ai commencé en fait à faire un espèce de catalogue, un inventaire de tous ces partages, avec pour pouvoir les retrouver facilement avec des mots-clés, que le lien soit facilement accessible, qu'on puisse avoir un petit aperçu. Donc ça a commencé par juste des catalogues Word enfin, au format PDF et maintenant c'est devenu la table de Claire, ça a évolué carrément en un site sur lequel on peut rechercher avec des mots-clés d'objectifs, donc on peut chercher métaphonologie, on peut chercher lexicorthographie, orthographe grammaticale, voilà, tout, à base de mots-clés, trouver mots-clés ou des auteurs ou des ou même des titres. On se dit, ah tiens, j'ai vu passer un support, c'était une histoire de, c'était avec des licornes et tout. En mettant tout un tas de mots-clés, et ben on arrive à retrouver des partages gratuits, enfin partagés généreusement par des orthophonistes. Je les ai tous mis, j'ai catégorisé tous ces liens et on peut les retrouver facilement comme ça. Voilà.
Et ça aussi, c'est un gain de temps énorme. Enfin, déjà, le boulot que ça te demande, toi, j'imagine même pas en termes d'heures combien de temps ça prend.
Mais j'ai eu de la chance, en fait, c'est que le groupe téléorthophonie, je l'ai pris dès le début. C'est-à-dire que j'ai senti le truc venir. Adaptation, le groupe sur les adaptations du matériel, là, il existait déjà depuis un moment et c'était super dur de s'y retrouver. Et téléorthophonie était naissant et j'avais déjà commencé à catégoriser. Et là, je me suis dit, oulala, ça va sentir avec le confinement, ça va partir. Et donc là, j'ai vraiment commencé à être hyper régulière et tous les jours, il y avait 20 ou 30, 50 partages et je les catégorisais minutieusement. Ah ouais. Donc j'ai eu la chance de le prendre dès le début et c'est vraiment ce groupe-là qui je trouve a fourni bon, bien sûr avant ça il y avait même le Pont, le fameux oui. Blog Pont qui était aussi une mine et celui-là dès le départ aussi je cherchais déjà des moyens de catégoriser tout ça mais la chance que j'ai eue c'est que Téléorthophonie qui a été un énorme pourvoyeur de fichiers j'ai pu le prendre dès le début et ça a été plus facile pour moi.
Oui, j'imagine que ça devenait plus acceptable. Mais quand même, combien de temps t'y passais tous les jours pour faire ça?
Ouais, je sais pas. Par jour, je pense que je devais, oh, je sais pas, je devais y passer facilement 2 heures, je pense.
Ah ouais. Oui, d'accord. Ouais, ah oui, c'est un travail énorme. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle tu travailles encore?
Oui, bah du coup, maintenant, je continue hein, sur la table de Claire. Là, c'est maintenant un site web. Donc, tout est mis à jour continuellement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un nouveau partage, hop, je le catégorise en mettant un aperçu, des mots-clés, un auteur et le lien cliquable pour aller retrouver la publication. Alors, je mets toujours le lien vers la publication originale. Je mets pas de... c'est pas un hébergeur de fichiers, ce site-là. Mais oui, ça continue encore. Mais ça me prend moins de temps parce que, bah, quand même, finalement, les partages depuis la fin du confinement, je trouve que ça devient gérable là. Alors à part grosse période de Noël où en général le boom des partages à cette période, il faut être au taquet parce qu'il y a plein de trucs partagés. Mais sinon, ouais, c'est plutôt gérable en quelques. Maintenant, ça me prend peut-être 30 minutes, ouais, quand même par jour.
Ouais, quand même, c'est quand même important. Mais j'imagine que toi, du coup, c'est quelque chose qui te sert aussi, dans le sens où ça te fait du nouveau matériel, ça peut t'inspirer pour des rééducations.
Ouais, c'est super. Bah oui. Puis je trouve que c'est tellement dommage que tous ces super partages, au bout de quelques jours, ils finissent vite dans l'oubli, quoi. C'est super dommage. Alors qu'il y a beaucoup de belles perles, quand même, dans tous ces fichiers.
Oui, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme projet? Donc, on avait parlé de ta première formation, la table de Claire.
Ouais. Et là, tout récemment, j'ai une nouvelle formation un peu plus administrative sur l'utilisation. Alors, encore un super logiciel qui est très connu du monde entrepreneurial, je pense. C'est le logiciel Notion. Alors, moi, j'avais beaucoup parlé de OneNote au départ sur le blog. C'était un gros morceau du blog pour l'organisation. Donc, Notion, c'est un petit peu OneNote, mais en version 2.0, je dirais. C'est aussi un organisateur de notes comme OneNote, mais qui permet permet d'aller beaucoup plus loin parce qu'il contient des bases de données, pardon, sur lesquelles on arrive à organiser, à catégoriser plein de choses. Donc là encore, on peut imaginer catégoriser son matériel, catégoriser toutes ces choses à faire, ces to-do list. Et en fait, c'est un logiciel hyper puissant pour s'organiser au quotidien. Donc j'ai proposé ma petite version spéciale orthophoniste pour le prendre en main rapidement, parce que c'est un logiciel, quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai dit « Ah, ok, bon, et qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il est un peu obscur au départ, mais quand on a… Alors, c'est assez court comme formation, hein, Pierre. Alors, si jamais ça vous intéresse, mettez-la en vitesse x1.5, je pense que ça marche bien aussi. Et c'est court et ça vous permet de vraiment comprendre tout le potentiel de notions. Voilà.
Super. Ah ouais, quand j'ai vu que tu sortais cette formation, je me suis dit « Ah, oh, ça tombe bien qu'on ait l'enregistrement bientôt, c'est top. » Et moi, je suis fan. Bah, là, tu vois, d'ailleurs, on fait l'interview et j'ai mes notes sur Notion à côté. Et je le trouve génial. Enfin, c'est un outil hyper riche. Ouais. Et comme toi, au début aussi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit « Ouh là là, comment on fait ?» Donc effectivement, moi, j'avais suivi une formation, mais déjà qui était… C'était quand même un petit peu long, j'avais trouvé, et puis c'était pas du tout spécifique à l'orthophonie. Tu vois, c'était plus organisation de la vie perso, enfin c'était c'était pas vraiment spécifique. Du coup, je suis super contente que tu puisses proposer cette formation, parce que je pense que ça peut vraiment aider les orthophonistes.
Ouais, parce que je choisis un point d'entrée justement sur la to-do list version orthophoniste. Ouais. Donc j'ai mis des choses de notre quotidien d'orthophoniste. Donc voilà, après c'est tout de suite réutilisable avec le modèle qu'on peut dupliquer dans son propre Notion et avec des idées d'adaptation au quotidien des orthophonistes. Donc ouais, c'était l'idée, c'est que ça soit tout de suite pratico-pratique. Pour nous.
Ouais,
et n'empêche qu'à travers cette petite to-do list, on découvre tout le potentiel de notions et plein de possibilités. On découvre ce que c'est que filtrer ces données, mettre des vues, mettre des tags, et que c'est la base de notions qui après peut nous servir on peut imaginer plein d'autres applications différentes. Et d'ailleurs, moi, je suis très friande de ça. Si y en a après qui veulent partager leur utilisation de notions en orthophonie et enrichir. Parce que moi, vraiment, je le connais depuis pas très longtemps. Hein. Je suis une débutante aussi dans Notion. Donc, moi, je suis très friande de ce genre de partage autour de Notion et de l'orthophonie.
Ah bah génial, j'espère que certains et certaines l'utilisent ou l'utiliseront après ta formation et pourront faire des retours pour enrichir nos pratiques à toutes et tous. Est-ce que tu fais tes dossiers patients sur Notion ou pas du tout ?
Alors, je les avais sur OneNote. Ouais. Alors bien sûr, je le redis, c'est à anonymiser. Il faut pas, on peut pas mettre trop de données dessus. Attention à la donnée de santé qui est hyper sensible. Maintenant, alors je viens tout juste de le faire. En fait, au début, j'étais sur les deux. J'étais avec OneNote pour les dossiers patients et Notion, c'était plus pour l'organisation générale. Et là, je commence tout juste à basculer, oui, les dossiers patients sur Notion. Et en fait, c'est encore plus simple pour anonymiser, puisque à chacun, je leur ai choisi une icône qui me rappelle l'enfant. Donc, finalement, je ne mets pas du tout d'initial, rien. Je mets un petit dessin. Si besoin, je me renote dans le dossier. J'ai toujours un petit dossier papier quelque part, donc je me renote l'icône que j'ai choisie si j'arrive plus à les reconnaître après. Et c'est comme ça que j'ai anonymisé ma page. Mais finalement, je me rends compte que c'est vachement plus pratique parce que j'ai créé un petit tableau de bord pour chaque patient et on va avoir, on a des encarts, idées, objectifs, bien sûr, contenu des séances. Et puis, je me suis fait un encart matériel où pour chaque patient, je filtre ma banque de données matérielle en fonction des objectifs que j'ai avec ce patient, ce qui fait que j'ai toujours la liste du matériel que j'ai au cabinet et qui est adapté à ce patient-là pour aller piocher les jours où on est un peu plus fatigué et où on a moins d'idées. C'est vachement pratique, ouais.
Ah ouais, et tu vois, moi justement, ça fait quelques mois là que je recherche une autre façon de faire parce que là, je me rends compte que sur OneNote, ça ne me convient plus du tout. J'arrive plus, enfin, je ne sais pas. Ça me parle pas, du coup, je note moins dans les dossiers. Enfin, ça ne me convient plus. Et je regardais la Perfactive qui a mis une nouvelle fonctionnalité, mais bon, pour l'instant, je trouve que ce n'est pas encore 100% adapté à ma pratique. Et du coup, peut-être que Notion, ça pourrait être une bonne idée. Là, l'histoire de filtrage de matériel, c'est, Ça me plaît beaucoup.
C'est intéressant, c'est intéressant. C'est beaucoup de boulot parce que ça veut, ouais. ça sous-entend avoir une grosse base de données de son matériel. Donc, catégoriser chaque matériel qu'on a, que ce soit déjà sur les étagères ou sur les disques durs, on n'en parle même pas. Donc, ou les logiciels, enfin les trucs en ligne. Donc, c'est un gros, gros boulot à la base. Mais je pense que ouais, ça peut être très puissant.
Ouais, mais en plus, moi, je suis vraiment pour cette histoire de recenser son matériel. Et ça fait un an que c'est sur ma to-do list et je ne l'ai toujours pas fait. Mais juste pour se rendre compte en fait, de ce qu'on a, parce que là, je me rends compte que j'ai des stagiaires. Donc, des fois, elles fouillent un peu dans les tiroirs. Elles me disent « Oh, c'est quoi ça? C'est génial !» Et je dis « Oh, mais je ne me souvenais même plus que je l'avais. » quoi. Enfin, c'est... Alors que je n'ai pas beaucoup de matériel. Donc, je me dis « C'est quand même fou.
» Ouais. Ah non, c'est vrai, on accumule vite, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a. Mais bon, en tout cas, le conseil, c'est de démarrer tout de suite sur un outil informatique. Hein. S'il y a un conseil que je peux donner, n'essayez même pas de faire un truc sur papier. C'est pas possible, quoi. Le matériel, il faut le catégoriser avec plein de mots-clés différents. Oui. Et même sur votre disque dur, on essaye parfois de se dire « Ah, bah, je fais un dossier compréhension écrite, je fais un dossier confusion. » Mais en fait, on se rend compte que non, le matériel, on peut l'utiliser toujours de plein de façons différentes. Et c'est ça qui est top avec ce système de tags, d'étiquettes, c'est qu'on met des multiples tags et on n'a pas juste un fichier rangé dans un seul dossier. Non, il peut être appelé pour plein d'objectifs et servir plein d'objectifs différents, en fait. Oui. C'est ça qui est chouette.
C'est hyper riche de procéder comme ça.
Voilà.
Est-ce que tu te rends compte que toi, du coup, tu le fais fréquemment de taper un mot-clé pour trouver un matériel ou peut-être que le fait que tu aies recensé ton matériel, ça te permet de mieux te souvenir peut-être ce que
je pense que j'ai un petit peu... J'ai ce truc-là d'avoir une très, très bonne mémoire. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à dire « Ouais, tu sais, il y a un PowerPoint, machin, là, on voyait ça. » En général, c'est un genre de truc où j'ai une mémoire bizarre et je me rappelle assez facilement de... qui l'a fait ou comment il s'appelait.
Ah oui, donc toi, tu n'as pas besoin de la table de Claire, elle est déjà dans la tête.
Elle est souvent dans la tête. Je m'en sers quand même aussi, mais maintenant, j'ai pris beaucoup d'automatismes et j'ai mes préférés, j'ai mes favoris. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien arriver à améliorer sur la table de Claire, c'est qu'on puisse faire ses petits favoris chacun, qu'on puisse se mettre ses petits cœurs, que chacun puisse organiser et retrouver ses fichiers quand il en a envie. Mais bon, voilà, ça va être une autre étape parce que là, c'est une des rares étapes où j'ai délégué le travail de site web. À quelqu'un un développeur web, donc il va falloir que je vois comment dans les faits ça peut se faire.
Super. Et alors maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu toi qui es la reine de l'organisation en orthophonie. Voilà, je t'autoproclame reine de l'organisation.
Merci.
Qu'est-ce que c'est un petit peu ton organisation? Comment tu t'organises par rapport aux rendez-vous, à la compta, les appels, etc. Donc, toi qui es beaucoup dirigée vers l'informatique, est-ce que tu délègues à l'informatique tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais par toi-même? Enfin, où est-ce que tu en es?
Alors, déjà, je ne suis pas une reine de l'organisation, ce n'est pas vrai. Parce que justement, c'est parce que j'ai besoin d'outils d'organisation, parce que je suis pas suffisamment organisée. Donc, non. Après, alors oui, donc moi, je délègue beaucoup au numérique. L'agenda, maintenant, c'est tout sur Perfective avec prise de rendez-vous en ligne. Alors moi, je ne suis pas en créneau volant où j'ai beaucoup de créneaux fixes, mais je délègue le côté, vous avez besoin d'annuler, vous avez besoin de changer. Vous le faites en ligne. La liste d'attente aussi, pareil. Bon, ça, c'est le côté un peu dur, je trouve. J'ai un peu plus de mal avec la liste d'attente. C'est un côté où je trouve ça difficile quand même. On a fait le choix de le faire en ligne, donc on sait que ça ne plaît pas forcément à tout le monde et que pas avoir les gens en ligne, c'est un problème. Oui, c'est vrai, mais c'est un choix qu'on fait pour juste garder notre santé mentale à un moment donné. Ça en vient là, quoi. Je sais pas comment c'est à Lyon, mais nous dans notre coin, on a énormément de listes d'attente, quoi. Donc voilà, c'est tout est je délègue le plus possible à l'informatique, que ce soit avec des trams, que pour la rédaction de compte rendu, que ce soit donc quoi d'autre, pour trouver le matériel, tout ce que j'expliquais tout à l'heure avec Notion ou avec la table de Claire, voilà. Tout est orgueil, j'essaye en tout cas au maximum d'utiliser ces outils-là.
Je rentre un petit peu dans les détails aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de néo-diplômés qui nous écoutent, donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir le point de vue de plusieurs orthos. Est-ce que toi, tu sépares téléphone pro, téléphone perso?
Eh ben non, parce que j'ai jamais eu de soucis avec. On voit souvent des exemples de difficultés par rapport à ça. Moi, j'ai jamais eu de problème avec
Oui.
de gens qui envahissaient le côté perso. Donc j'ai toujours non, j'ai. Alors on a un téléphone pro pour, mais mon téléphone perso, c'est aussi celui que je donne aux patients pour me prévenir ou autre. Et ça a jamais débouché en 15 ans d'exercice, ça a
Oui.
jamais débordé. Donc je le garde comme ça.
Oui.
Voilà, donc non, ça je. Et puis on parlait du côté compta, j'y repense. Compta,
Oui.
oui, je délègue. Alors, j'ai beaucoup fait toute seule au début, mais je pense que c'est bien de se mettre dedans au départ pour comprendre comment ça fonctionne,
Oui.
qu'est-ce que c'est les charges, où ça va, tout ça. Après, quand j'ai eu les enfants petits, j'ai pris un comptable parce que c'était trop dur de tout faire. Et là, maintenant, je suis sur Indeed. Donc ça, c'est un peu en entre-deux, où c'est quand même
Ouais.
semi-automatisé, voilà.
Ouais, moi je trouve ça pas mal parce que tu as quand même une vue sur tes comptes, mais ça t'évite de toi tout classer, etc. Donc,
Ouais, c'est un bon entre-deux, je suis d'accord.
ouais, c'est ça, pour quand même maîtriser un petit peu, mais sans y passer des heures et des heures. J'aimerais savoir un petit peu à quoi ressemblent tes semaines, comme bah, tu as ton cabinet libéral et Paxa à faire, comment tu t'organises pour ça?
Alors moi, bon, c'est une organisation qui me convient pour l'instant, mais en même
Oui.
temps, je sais que je change souvent. En fait, j'ai besoin de
Oui.
changer, sinon je m'ennuie très vite. Donc je sais que je change souvent d'organisation. Donc là, l'organisation actuelle, c'est en général, je suis au cabinet 5 jours par semaine, mais
Oui.
avec des plages différentes. Donc en fait, je switch d'une activité à l'autre. Donc je suis présente aux horaires intéressants pour les patients, bah, je suis là pour les patients. Puis quand c'est des horaires moins demandés, le 10h, le 10-12 ou le 14-16 de l'après-midi, et bah,
Ouais.
c'est plutôt des temps où je vais travailler sur Paxa et sur les formations. Voilà, c'est
Génial.
comme ça que je partage le temps. Mais je commence à me dire que 5 jours, c'est quand même lourd de tout le temps switcher. Donc là, je réfléchis à comment je pourrais faire encore. Voilà, je sais pas. Je sais pas si ça va rester comme ça.
Peut-être que ça changera.
Ouais.
Et est-ce que tu as le temps en travaillant bah, du coup plutôt 8-10 et après du coup 16 jusqu'à quelle heure tu travailles?
Ah, c'est pas tous les jours comme ça. Après, j'ai quand même du
D'accord.
monde. Il y a certaines matinées où les matinées sont remplies et où
Oui.
du coup j'ai dégagé plutôt l'après-midi. Ça dépend. Mais
Oui.
j'ai un volume. Moi, j'ai pas un énorme volume patient. Je suis entre 45, à peu près 45, 50 et
Oui.
ouais, ça va. C'est à peu près
Oui.
le rythme que j'ai.
Et si ça te convient, c'est parfait.
Pour l'instant, toujours
Ouais.
pareil, pour l'instant, ça me convient
Pour
et il y aura
l'instant,
peut-être
ça
des
va.
périodes où voilà, mes enfants sont encore jeunes, j'ai envie
Oui.
de pouvoir faire les devoirs avec eux le soir et de pouvoir donc non, pour l'instant, ça me convient comme ça, mais je dis pas que quand ils seront un peu plus grands, ça sera différent
Oui.
et j'aurai un volume de patients plus important.
Oui, c'est possible aussi. Et est-ce que tu arrives à faire toutes tes tâches administratives en ayant, enfin, sur tes journées de travail? Donc, je parle de ben, un peu compta, mais surtout compte rendu, les appels, etc. Quand tu as la table, j'allais dire la table de Claire. Non, il n'y a pas que ça. Pas que
Y a
ça
pas
à faire.
que ça.
Et le cabinet libéral.
Oui, parce qu'en fait, l'astuce, c'est qu'en morcelant, ça devient tout de suite beaucoup plus faisable. C'est que la compta, non, c'est pas grand-chose, parce que quand on morcelle bien et que 2 fois par semaine, on jette un œil sur Indeed pour aller recatégoriser le truc qui est mal catégorisé, attacher la facture à une ligne comptable, moi, ça me prend 5 minutes 2 fois par semaine de faire ça. Et c'est du temps gagné pour la suite. Donc,
Oui.
c'est aussi ça l'idée, c'est en arrivant à faire petit mais régulier, comme ce qu'on conseille à nos patients, rappelez-vous. Hein? Si on fait souvent mais pas grand-chose, et ben c'est comme ça que ça avance bien. Les comptes rendus, c'est pareil, on a souvent tendance à dire oh, compte rendu, on s'écrit sur sa to-do list compte rendu, mais si en fait on se dit ah bah tiens, là je vais rédiger l'anamnèse, ok, là bah, je vais juste aller copier-coller mes résultats, là je vais juste, si on prend l'habitude de morceler comme ça et de se dire que bah, un compte rendu, c'est pas une tâche, c'est un différents projets qu'il faut sous-découper en multiples tâches différentes. Et quand on le voit comme ça, ben, ça nous paraît plus faisable de faire peut-être un petit truc sur un trou de 15 minutes ou de 5 minutes que si on se dit, bah non, il faut que j'ai 2 heures parce que sinon, il faut que je me mette dedans et tout. Alors oui, il y a certaines parties où c'est sûr qu'il vaut mieux peut-être faire sa conclusion d'un trait ou ça prend un peu plus de temps. Mais on peut aussi arriver à faire plein de petites choses sur des temps courts.
Ouais, c'est possible aussi complètement. Moi, je sais que j'aime bien en début de semaine, je m'écris semaine 5 par exemple, et je m'écris tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Et en général, je reporte aussi la semaine d'avant s'il y a des choses que j'ai pas pu faire. En essayant d'être réaliste, parce qu'au début, quand je le faisais, j'avais une page et demie et c'était impossible. Donc ouais. Là, j'essaye d'être réaliste. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre le temps que j'estime en face. Tu vois, par exemple, appelle la maîtresse, etc. Je me mets 10 minutes. Un compte-rendu myofonctionnel, 20 minutes. Un compte-rendu neuro, un peu plus de temps. Et du coup, comme ça, quand j'ai des trous, que ce soit des absences ou enfin des choses prévues, tu vois, je me dis, ah là, j'ai combien de temps? Eh ben, ok, du coup, je pioche ce qui est possible de faire. C'est un truc qui m'aide pas mal, mais je suis comme toi. Moi, j'aime bien changer aussi. Je sais que ça me va bien pour l'instant.
C'est ça.
Mais je sais pas si ça sera pérenne ou pas. J'aimerais qu'on parle aussi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant dans ces podcasts, si tu as rencontré des difficultés, que ce soit dans ton quotidien d'ortho ou dans la gestion de PACSA à faire. En général, c'est des moments dans les podcasts aussi qui sont bien plébiscités et souvent ça fait du bien en fait d'écouter des gens qui ont rencontré des difficultés et voir justement comment ils ont fait pour nous aider, parce que on a un métier où si on traverse une difficulté, on est quasiment sûr que certains ou certaines collègues les traversent aussi. Et du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous montre un petit peu comment il a pu faire pour nous aider. Alors, est-ce que toi, tu vois des choses ?
Ouais, les difficultés. Alors, dans le quotidien d'ortho, moi, ça a été l'ennui pendant un moment. J'ose le dire et je pense que, pour avoir vu des discussions, je sais que je suis pas la seule.
Ouais, c'est super.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de ces journées où je switch d'une activité à l'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé cette activité secondaire aussi, parce que dans les séances d'orthophonie, surtout que je suis assez... comme je disais, mon champ d'intervention, moi, je suis très trouble des apprentissages. Et il y a des moments où, les journées où on voit 10 patients dyslexiques et ça ronronne, voilà. Donc, c'était une façon pour moi de tromper l'ennui. Et sur la casquette PACSA, ça serait plus le côté où je suis seule. Parfois les gens ils se rendent pas compte qu'en fait il y a une personne derrière. Et je trouve que c'était ça le plus dur, c'est que parfois on a des demandes, c'est pas facile de tout gérer seul. C'est le côté un peu seul de l'entrepreneuriat qui des fois est un peu pesant et quand on a affaire à des gens qui se rendent pas forcément compte que qu'on n'est pas que sur le blog tout le temps ou qu'on n'est pas que en train d'essayer de dépanner telle ou telle personne qui a un souci, voilà, c'est pas toujours évident.
Ouais, et justement, est-ce que là-dessus pour PACSA t'es moins en difficulté, est-ce que il y a des choses qui t'ont aidé à être moins en difficulté là-dessus?
J'ai délégué pas mal de choses à un développeur web, là, c'était ce que j'avais dit. Mais bon, pour l'instant, clairement, les finances que j'ai de que ce soit par l'organisme sur Moodlab ou le blog, j'ai pas de rétribution sur le blog. Donc c'est dur de déléguer parce que je peux pas
financièrement.
Je peux pas financièrement, quoi, voilà. Puis c'était dur, même moralement, de déléguer, de pas avoir la main sur tout, de pas pouvoir dire non, mais en fait, là, j'aimerais voir quand même comment tu fais, parce que je voudrais que ça soit comme ça. Donc même si on peut dire ce qu'on voudrait, c'est pas facile de déléguer, mais j'y travaille.
Donc ouais, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement aussi, c'est ça qu'on peut retenir.
C'est ça.
Mais c'est super, tu vois, que tu en parles de l'ennui, parce que justement, moi, du coup, je suis un petit peu moins sur les groupes Facebook et plus sur Instagram dans le contenu que je suis. Et on en parle pas tellement de cette notion d'ennui. On voit plus de la passion, justement. Et je pense qu'on se ressemble beaucoup sur ce point-là aussi. Moi, ouais. Si j'ai commencé à faire des choses à côté, c'est parce qu'en fait, vraiment, tu vois, quand je suis sortie des études, je me suis dit, oh, mais c'est super, là, c'est ce dont j'avais envie. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, ah, là, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, en fait. Et du coup, d'avoir une autre casquette, avoir une triple casquette avec le podcast, du coup, je sens que, tu vois, j'ai besoin de ça. Sinon, bah, pareil que toi, tu vois, il y a des journées, bah, les mercredis, typiquement, les mercredis, ouais. C'est les grosses, grosses journées. Oh, je me dis, waouh, c'est long, hein. Donc, c'est pour ça que je trouve ça chouette d'en parler, parce que bah, on peut faire ce métier sans être 100% passionné, ne pas s'ennuyer une minute, enfin... Pour moi, c'est enfin, ça
ah oui.
Allait passer comme ça. Hein.
Moi, je suis totalement dans cette optique-là. Hein. Je suis pas, c'est... justement, c'est pas une vocation. Et justement, le blog, il m'a aidé à me dire, mais comment je peux faire bien avec aussi en rapport à ce que je gagne en fait. C'est oui, qu'à un moment donné, on a beau être passionné, ok, mais quand même à côté, il faut que je gagne ma vie. Donc, oui. Je ne vais pas pouvoir faire une ligne de base aux petits oignons pour chaque petit patient et faire donc comment je fais du mieux que je peux, mais avec ce qu'on me donne aussi. Quoi.
Oui.
Donc, mettre les deux en balance et se dire que bah, oui, l'équilibre n'est pas facile à trouver et qu'il y a des choix à faire aussi. Bah oui, effectivement, la liste d'attente en ligne, ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est le choix qu'on a fait, c'est le choix que j'ai fait pour ma santé mentale et pour que ça soit gérable au quotidien. Que rien n'est parfait, mais c'est comme ça, quoi.
Et ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, si on part sur la liste d'attente, c'est quelque chose qui te convient, c'est super. Moi, je sais que j'ai rencontré des orthophonistes qui répondaient à chaque fois au téléphone et ça leur semblait hyper intéressant. Et du coup, moi, je l'ai fait dans un remplacement parce que c'était le fonctionnement du cabinet. Et pour moi, c'était hyper dur parce qu'en fait, ah ouais. Ça me coupait tout le temps et j'y arrivais pas. Et pourtant, tu vois, je voyais que c'était hyper intéressant parce que du coup, les patients étaient trop contents parce que personne répondait aux ouais. alentours. Ça permettait déjà d'aiguiller. Mais sauf qu'en fait, tu vois, c'est une question de santé mentale. En fait, moi, dès que j'entendais le téléphone sonner, j'étais « Oh, mais pas encore, c'est pas possible !» Et enfin voilà, et c'est pour ça, enfin c'est bien d'en parler aussi, c'est que toi tu as trouvé cette solution qui te paraît peut-être pas parfaite, mais
non,
qui
voilà, c'est ça. Ouais, c'est, donc, ça reste un choix, mais un choix qui est fait de façon réfléchie et avec aussi ses inconvénients, et on en a conscience, quoi. Voilà.
Ouais. Super. Et ben en tout cas, franchement, merci pour tout ce que tu nous as expliqué. Ça fait vraiment du bien, je pense, d'entendre ça, et je pense que les auditeurs et auditrices seront ravis. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une exclusivité sur un projet à venir sur Paxa à faire ?
Alors moi, je suis ouverte à d'autres projets là, parce que je viens de sortir la formation. Mais s'il y a des envies, si les auditeurs ont envie de partager des demandes, qu'ils souhaiteraient voir venir sur l'administratif ou l'organisation, moi, je suis ouverte à ça, pas de souci.
Génial. Et où est-ce qu'ils peuvent te joindre ?
Je te donnerai les coordonnées du Linktree, et puis dessus il y aura tout là, le blog, la table de Claire, il y aura toutes les coordonnées, ou par le blog, ou par Facebook, Insta, tout sera dispo. Et puis bah, pour ceux qui auraient raté le lancement de la formation Notion, et ben je reprolonge le coupon de réduction de 10 € si ça vous intéresse de prendre cette formation. Donc en utilisant je mets le code promo podcast pour que vous puissiez bénéficier de 10 € de réduction sur la formation Notion si ça vous intéresse.
Ah voilà. Bah super, vraiment merci beaucoup pour cette offre que tu proposes aux auditeurs et aux auditrices. Combien de temps ça sera valable, le coupon ?
Eh ben, on le fera une quinzaine de jours jusqu'à début mars.
Parfait, eh ben super. Bon, bah, j'espère que ça vous tentera pour les auditeurs et auditrices. En tout cas, moi, ça me donne bien envie. on arrive à la dernière question du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices ?
Eh bien, je vais reprendre un peu ce qu'on s'est dit quelques minutes avant. Moi, ma devise, c'est on peut pas faire de la haute couture avec tout le monde. Donc voilà, au prix du prêt-à-porter, on ne fait pas de la haute couture. Donc il faut accepter de pas être parfait et de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà.
Eh ben super, c'est vraiment un chouette message que tu présentes aujourd'hui, Claire. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci à toi pour cette invitation.
Avec grand plaisir. À très vite, Claire.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.